L'Afrique dans tous ses états. Une émission réalisée et produite par Radio FM+.
Eh bien, bonjour à tous. Donc, nous allons parcourir l'Afrique dans tous ses états. Je suis en compagnie de mon cher complice. Bonjour Jérémy.
Bonjour Marie-Claude.
Voilà, c'est toujours un plaisir. Et donc aujourd'hui, nous avons le grand plaisir et le grand honneur de recevoir M. Bamba Chaïb, qui est un étudiant ivoirien, s'il vous plaît, de la Côte d'Ivoire. Il est délégué de l'association des étudiants et des stagiaires de la Côte d'Ivoire à Montpellier. Et il est doctorant en sociologie numérique. Voilà. Bonjour Bamba.
Bonjour.
Bonne arrivée, comme on dit, au pays. Et puis, je laisse la parole à Jérémy pour entamer la discussion que nous allons avoir avec notre invité.
Alors, merci Marie-Claude. Merci Bamba d'être là parmi nous. Et on reçoit, comme elle l'a dit, l'étudiant et le doctorant. Mais on va laisser l'étudiant lui-même se présenter.
Tout à fait.
Et puis... L'échange va continuer.
Merci Monsieur Jérémy. Je suis étudiant étranger inscrit régulièrement à la faculté de Montpellier, Paul Valéry, en sociologie numérique, deuxième année de doctorat. Par ailleurs, délégué des étudiants ivoiriens de Montpellier. Voilà.
Bien. Alors, depuis quand êtes-vous arrivé à Montpellier?
J'ai bénéficié du programme Campus France en 2018, étant déjà inscrit à l'université Félix Houphouët-Boigny ou l'université de Cocody en master sociologie économique. Et voilà, j'ai opté pour ce programme pour pousser mes recherches et aussi... dans ma discipline, la France est l'une des pionnières dans cette discipline, voilà. Un foyer de la sociologie, voilà, avec Émile Durkheim. On a la sociologie allemande, on a la sociologie française, la sociologie américaine de l'école de Chicago. Et donc pour moi, à travers mes pairs, c'était un moyen d'approfondir ma connaissance, voilà, et atteindre mon projet professionnel, voilà.
D'accord. Mais ce qui est intéressant, c'est comment, depuis Abidjan, après le bac, on se dit on va faire une carrière de sociologue. On va vouloir faire des études de sociologie. Qu'est-ce qui pousse un gamin à vouloir faire sociologie? Parce que ce qu'on a comme image, c'est pas seulement une image, mais on m'a toujours dit que ceux qui font sociologie, c'est qu'ils ont un compte à régler la sociologie. Est-ce que c'est ton cas?
On dit ça pareil des psychologues.
Moi aussi,
oui. Ce n'est pas toujours le cas, je suis témoin. Voilà, mais bon.
Merci pour la question. Mon amour pour cette discipline est... Je pourrais la scinder en deux réponses. D'abord, ça a été déjà pour moi un bouée de sauvetage dans ma vie, parce que très spirituel dans ma famille, cette discipline m'a permis d'observer plein de distances face aux préjugés de la vie, aux injustices de la vie. Et pour moi, c'était une manière de me rapprocher plus de la réalité sociale et non de la vérité. La vérité au sens subjectif et la réalité sociale au sens objectif. Dans ma société, il y a beaucoup de préjugés, beaucoup de discriminations, beaucoup de prénotions, et cette discipline m'a canalisé, m'a assagi. Du coup, le deuxième volet, c'est aussi en termes d'exemplarité. J'ai pris pour référence mes enseignants, j'ai pris pour référence mes condisciples. Et cette discipline m'a permis d'échapper un peu à la violence dans mon quartier, m'a permis de rêver. Et donc, d'où est parti mon amour pour cette discipline, pour les sciences humaines et sociales, on va dire, de manière générale.
D'accord. Moi, ce que je voulais savoir, Bamba, j'ai entendu bien, ça m'a beaucoup touché, cette histoire de justement de sortir d'un système où il y avait beaucoup de discrimination. Donc, effectivement, quand on est dedans, il me semble avoir entendu ça aussi, c'est qu'on a tendance à y être, forcément. On est éduqué là-dedans, on est dedans, on baigne dedans. Voilà, et puis quelquefois, on traîne ça un peu, même toute sa vie. Donc, qu'est-ce qui a fait à un moment que tu t'es senti un peu différent, que tu as eu besoin, justement, d'aller regarder un peu de l'autre côté, que ce qu'on t'avait inculqué ou comment on t'avait éduqué?
Déjà, un fait qui m'a marqué, c'est que les sciences dites dures, les mathématiques, la chimie sont beaucoup prégnants chez nous. Et quand vous n'êtes pas aussi doué dans ces sciences dites dures, en vous, vous échecs soit du système scolaire, ou soit aussi, lorsqu'on se rend compte que vous aimeriez embrasser les sciences humaines et sociales, on vous fait croire qu'il n'y a pas de débouché. Ce sont des sciences inutiles, qui ne servent à rien. Et franchement, j'ai aussi un bac ES. Chez nous, on communément appelé un bac B, sciences économiques et sociales. Et j'ai échoué au bac. Et c'était la moquerie. J'avais pas vraiment de tuteur. C'était difficile d'avoir les livres, les ouvrages. On m'a dit, oh, c'est pas utile, c'est besoin de bac. Il faut faire le bac général. Voilà. Bac D, série A, série littéraire ou série C scientifique. Les bacs dits techniques chez nous n'ont pas de valeur. C'est pour ceux qui ont échoué dans la vie. Et aussi, je suis issu d'une famille où la polygamie est beaucoup pratiquée. Et du coup, voilà, c'est au vu de tout cela, en termes d'exemplarité pour mes petits frères, voilà, donc j'ai choisi de repousser loin mes limites. Voilà, donc vraiment, c'est ce qui m'a le plus permis d'insister dans cette voie. Et aussi, en termes de préjugés, c'est qu'on nous fait croire chez nous que la philosophie, la psychologie, la sociologie, même voir l'histoire, ça ne sert à rien. Il faut plutôt pharmacien, médecine, professeur de maths, à la limite professeur d'anglais. Voilà. Et par l'ignorance, voilà, on nous décourage au quotidien. Ça veut dire quoi? Vous faites quoi? C'est la même réponse. Vous avez vos parents qui ne font même pas de recherche dans ce domaine. Des oncles, des tantes qui vous posent la question sans cesse. Mais vous insistez, vous insistez, vous insistez. Et puis bon, voilà, aujourd'hui, avec l'avènement des sciences humaines et sociales, avec le Covid, les gilets jaunes, beaucoup comprennent aisément ce que ça veut dire la sociologie.
Alors, Jérémy, je prends la parole d'abord. Parce que je suis un peu, c'est chaud là pour moi. Oui, donc ce que j'entends deux choses. J'entends déjà chapeau, le courage de sortir des ornières, parce que même chez nous, hein, les traditions et tout, quelque part, c'est pareil. Hein. Alors, on sait que c'est très fort en Afrique, c'est ce qui fait aussi la force des Africains, mais aussi leur fragilité. Et ce que j'entends aussi, c'est un moment, on est un peu dans le même cas de figure que chez nous. Hein. À un moment, c'est les filières scientifiques, etc. C'était des discours. Voilà, il fallait faire à l'époque, je me rappelle, un bac C, sinon on s'en sortait pas, etc., etc. Et on a fait tout science. Sauf que, un petit rappel, c'est que quand même, par exemple, rien que la médecine, c'est quand même une science humaine, on l'a beaucoup oubliée, au détriment de la pharmacologie et de tout ce qui est instrumentalisé, etc. Et puisqu'on a fait des progrès aussi là-dedans. Et je dois dire qu'à un moment, effectivement, on se trouve un peu... et qu'actuellement, là, il semblerait que l'histoire de la Terre, en ce moment, de l'univers dans lequel on vit, vienne nous rappeler... Alors là, on a parlé plus prosaïquement des gilets jaunes et tout, mais on a énormément d'événements qui viennent nous rappeler quand même « Eh, les humains, ça existe !» Donc, je dois dire, cher Jérémy, que notre invité Bamba Chaïm a été un précurseur, en tout cas peut-être de sa génération, et en tout cas dans sa famille, chapeau. Voilà ce que j'avais envie de dire.
Merci, et surtout j'aimerais renchérir là-dessus parce que je suis le seul dans ma famille à avoir opté pour cette série ES, Bac ES, Sciences économiques et sociales, et avoir fait la sociologie. Et je suis le seul dans ma famille... avoir migré en France.
Ah ouais.
Donc vous voyez un peu tout ce... Je suis le seul.
Le phénomène.
Et mes référents en termes de famille, c'est mon oncle qui est médecin, l'autre est professeur en chimie à l'université. Donc c'était des... C'est... On m'a toujours décrit un peu de manière péjorative que oui, c'est les sciences molles. Voilà, c'est comme des futilités que je faisais, quoi, mais bon, voilà. Ouais. Mais bon, comme il insiste, laisse le faire, voilà, pas qu'il s'égare, donc voilà. Donc pour moi, c'est une manière, c'est une revanche dans ma vie, sur l'histoire, ça, c'est une manière de dire à mes petits frères de ne jamais baisser les bras. Voilà. Merci.
D'accord. Oh, mais c'est bien ce que raconte notre invité, parce que effectivement, dans ces familles-là, quelquefois, les métiers ou les fonctions valorisées, c'est métiers scientifiques, comme il a dit. Et ce qui me touche, c'est qu'il a persisté dans sa voie. Heureusement qu'on l'a laissé faire, on ne l'a pas découragé. Il ne s'est pas arrêté aux moqueries et il allait plus loin. Donc là, maintenant que tu y es, qu'est-ce que tu, par rapport aux jeunes frères, ceux que tu connais, qu'est-ce que tu devrais leur dire, par exemple, s'il y a quelque chose à leur dire?
En termes de...
De choix de leur étude, hein.
D'orientation ou de conseils ou de suggestions, ce que j'aimerais dire à la jeunesse, c'est de ne jamais baisser les bras, c'est d'avoir en tête tout le temps que nos choix... Je me partage une citation de Albert Einstein qui disait, par exemple, dans la vie, ce qui m'effraie le plus, ce n'est pas l'oppression des méchants, mais c'est l'indifférence des bons. En ce sens que les découragements et les moqueries ne doivent pas vous empêcher d'atteindre votre objectif. Battez-vous pour ceux qui croient en vous. Moi, j'ai cru à mes professeurs. Depuis le bac, depuis la terminale, c'est père à son âme, monsieur Jean-Jacques Kwame, père à son âme, qui m'a motivé. À l'université, j'ai eu des référents comme professeur Dédi, professeur Lida, qui m'ont... J'ai eu une seconde famille à l'université. Ma famille biologique ne savait rien, mais je me suis recréé des référents autres que mes pères biologiques. Et c'est ce qui a été ma force, ma carapace. Donc, si une voie se ferme, créez-vous une autre voie. Même si vous titubez, vous tombez, relevez-vous à chaque fois. Et c'est par votre résilience que les gens croiront plus tard à vous. Ne baissez jamais les bras.
Alors je dois dire que Einstein savait de quoi il parlait, parce que quand il était jeune, il était complètement nul. Il était vraiment, il devait être moqué lui aussi beaucoup de lui. Voilà, et on voit ce qu'il est devenu. Donc c'est bien d'avoir une référence aussi sur quelqu'un qui peut être un modèle, ou en tout cas voilà, qui peut inciter à. Et merci aux professeurs qui permettent à des jeunes comme toi et comme d'autres de vraiment de pas renoncer à eux-mêmes, quoi.
Mais avant de continuer, je pense qu'on marque une petite pause musicale.
Oui, peut-être, oui.
Ouais. Et puis on reviendra tout à l'heure.
La Côte d'Ivoire, inspirante terre d'hospitalité, reçoit l'Afrique. Jour de fête.
C'est quoi?
Et vous ça va?
Alors, le piaté, y'en pas.
Nous, mais les tibis. Ibrahim Fama Diabaté. À lui seulement. Pourquoi? Yakou bien élan, hommage à toi, président Duke Saga.
Venez, venez danser.
C'est un combo,
la Côte d'Ivoire, le soir, l'Afrique, ça va chauffer.
Yancy Le Pen.
On fait ça, on peut en t'envoler. Ici, c'est la chance de t'envoler. Lui qui néglige les paroles.
Jury Mato.
Regardez comment on maîtrise le vrai. Tous les drapeaux sont levés. Africa, on est les tiens. On est toujours debout, on n'est jamais fait.
Magui Dola de Los Angeles. Junior Dola.
Fatigué, faut jouer, nous on est là.
Qui t'a balé? Coup du mato.
Et puis Fan André.
Descends, coup du mato.
Gang, gang, gang.
Descends, coup du marais.
Ça va,
ça va. Coup du mato, c'est coup du marais.
شرفته على بلد البيا
Et nous voici de retour, quand même dans la réalité. Cette musique nous a un peu transportés, il faut dire, avec notre invité Bamba Chaïb. Voilà, et donc Jérémy, voilà, on continue l'entretien.
Voilà, hein. Donc Bamba Chaïb, tout à l'heure, s'est présenté comme étudiant doctorant en sociologie numérique. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la sociologie numérique, que tu pourrais préciser, s'il te plaît ?
La sociologie numérique est une sous-branche de la sociologie générale qui s'intéresse à tout ce qui est pratique numérique, nos comportements avec les réseaux sociaux, nos manières d'interagir avec le numérique, les bornes automatiques, les smartphones, nos addictions, les effets néfastes de l'usage du numérique dans la famille, la solitude familiale, au travail, les impacts sur la mentalité de la société, comment est-ce que le numérique et la démocratie peuvent interagir dans la société. Je peux prendre l'exemple, par exemple, des gilets jaunes. L'élément déclencheur était sur les réseaux sociaux. Voilà, donc on va travailler sur la trajectoire sociale des individus. Voilà, et si, comment est-ce que, avec l'algorithme, l'intelligence artificielle, on arrive à se parfaire, donner une autre image de soi, de s'identifier à des personnalités en ligne, à des coachs en ligne, et aussi développer un nouveau concept qui est le capital numérique. Voilà, on a l'auteur sociologue français Pierre Bourdieu qui avait développé deux types de capitaux, le capital social et le capital culturel. En économie, on avait déjà le capital économique. Et là, le capital numérique interagit avec les trois en fonction de notre dotation en capital culturel, c'est-à-dire notre éducation, notre niveau intellectuel, notre niveau d'accessibilité à la connaissance, on saura mieux, par exemple, interagir avec l'outil numérique. En termes de capital économique, en fonction de notre pouvoir d'achat ou pas, on pourra avoir accès à certains outils technologiques. Internet, smartphone, aux conditions de travail. En fonction du capital social, pourra mieux interagir avec plein d'internautes, followers, vos auditeurs, vos auditrices, qui sont plus connectés en ligne sur la radio. Voilà. Donc c'est ces trois qui permettent, en termes de capital numérique, de nous permettre d'être à l'aise avec l'outil numérique, par exemple. Donc la sociologie numérique a développé, par exemple, le concept du capital numérique. Il y a d'autres concepts, la fracture sociale, fracture numérique, l'inclusion numérique, ou la disqualification numérique. Voilà, donc c'est une sous-branche de la sociologie, comme la sociologie de la famille, la sociologie politique, la sociologie économique.
D'accord. Mais c'est bien. Là, ce sera beaucoup plus clair pour les auditeurs.
Oui.
Et moi, je vais rebondir un peu sur ce que tu as dit au début. Tu as cité Durkheim. Qui a pensé ou qui nous a donné un éclairage sur la société occidentale, tout simplement. Je crois que c'est un des plus grands sociologues. Tu as parlé de Bourdieu, que j'aime bien. Pour moi, c'est la figure titulaire de l'intelligentsia française.
Tout à fait.
Et de ces deux, c'est des vedettes, en tout cas. Est-ce que tu penses, selon les travaux qu'ils ont produits, est-ce qu'on peut l'appliquer ou bien est-ce que ce qui décrit la société occidentale en général, est-ce que c'est le même regard qu'on peut porter sur nos sociétés africaines ?
Bonne question, Jérémy.
Effectivement, merci pour votre question, Jérémy. je dirais oui et non. Oui, en fonction. En sociologie, chaque société, chaque civilisation est unique.
C'est vrai.
Sans cela, que chez nous, en sociologie, on va faire une théorisation, l'ancrage théorique. En fonction de telle situation, soit on va appliquer la bourdieusienne. Bourdieu et Durkheim sont de la même école. la primauté de la société, c'est l'individu. Mais il y a aussi des sociologues français qui ont fait l'inverse, la primauté de l'individu sur la société. Il y a des individus qui vont échapper aux normes sociales. Donc avec ces théories, on peut aussi partir du fait que lors de nos entretiens, notre guide d'entretien, souvent on a tendance à voir un individu qui va émerger du groupe et qui va influencer la réponse des autres membres du groupe. Mm-hmm. Mais en même temps aussi, si on passe, je prends par exemple le phénomène TikTok, où les individus sont plus passifs, on peut appliquer la théorie de Durkheim et de Bourdieu qui prouve qu'avec le phénomène TikTok, les individus ont du mal avec l'algorithme qui est très puissant. Et ils subissent le choix de l'application des algorithmes l'IA de TikTok, mm-hmm. avec des images violentes, avec le fait de romantiser le suicide mm-hmm. du Kem mm-hmm. à travers le suicide collectif. Mm-hmm. Il nous a prouvé que le suicide n'est pas un fait isolé à la psychologie, mm-hmm. mais plutôt un mécanisme, un manque d'intégration de l'individu dû aux pressions sociales, dû au fait de la... Du fait de son degré d'intégration familiale, du fait que l'individu est livré à lui-même avec le capitalisme, l'individualisme, je pense, donc je suis. Avant, ce n'était pas comme ça. C'était la communauté, il y avait l'individu entouré. Donc, c'est un peu tout ça. Donc, on peut l'appliquer, effectivement, il y a la sociologie africaine, mais qui s'appuie fondamentalement sur la sociologie américaine, allemande, française, même russe, voilà. Si des théories, en fonction des problèmes, on va s'adapter.
D'accord. Mais d'accord, ouais. Là, tu viens d'un pays qui s'appelle la Côte d'Ivoire. Est-ce que avant Durkheim, nos sociétés traditionnelles, tu as parlé des référents qui peuvent influencer les décisions des uns et des autres, parce qu'ils sont leaders naturels. Est-ce que tu ne penses pas que nos anciens, qui ne sont pas là à l'école, mais qui ont une certaine sagesse, qui ont une certaine connaissance. Est-ce que ceux-là, qui influençaient en tout cas les sociétés, comment on pourrait les classer par rapport à ce que tu dis moderne où Bourdieu a théorisé, Durkheim a théorisé, ceux-là, comment toi tu te retrouves entre ces deux?
Très bonne question. Effectivement, je me rappelle encore de mes examens, encore quand j'étais sur les bancs, effectivement. En sociologie, on considère ces personnes, ces individus, comme des personnes ressources. Chez nous, la détention de la connaissance ne se fait pas exclusivement dans un cadre formel, universitaire ou scolaire. Le sociologue considère celui qui détient la connaissance à partir de cette réalité propre à la personne. Ces patriarches, ces chefs coutumiers, ces garants de nos traditions sont des référents en sociologie. Je dirais plus même en anthropologie. Mmh. Passons pas d'une observation anthropologique pour déboucher sur la sociologie. Ouais. Du coup, ces personnes, c'est elles qui seront en mesure de nous transcrire ce qui est norme dans telle société, ce qui est interdit dans une telle société. Donc, elles sont fondamentales dans une enquête. Elles sont fondamentales dans une approche sociologique. Qui détient le rôle du père? Qui détient le rôle de la mère? L'interdit, c'est quoi? Ce qui est accepté ou ce qui est communément admis dans une telle société, c'est ces personnes qui régissent le cadre juridique, si on peut le dire ainsi. Donc on ne peut pas faire fi de ces personnes dans une approche sociologique. Il faut chercher le regard aussi d'un sens inverse, c'est ça le sociologue, comment ces personnes sont perçues avec la modernité. Comme Durkheim l'a dit, faire fi de toutes ces prénotions dans les étapes de la sociologie. Il faut considérer le fait de manière historique, pour prendre cette distance. Qui est considéré comme le sorcier dans le village, ou la sorcière dans le village qui a la magie noire? Pourquoi elle est-elle considérée comme ça? Comment est-ce que les imaginaires sociaux ont transformé cette histoire en une histoire populaire? Donc, pour une anecdote, j'ai eu la chance de suivre mes enseignants au nord de la Côte d'Ivoire, et là-bas, la tradition, celle chez les Yakuba, c'est la sœur qui valide la dot dans la famille. C'est ni le père ni la mère. comme quoi la promotion de la femme, en fait, on le dit en
guillemets. Ça existe dans certaines cultures.
Nous, on ne le savait pas. Pour nous, c'est le père et la mère qui sont les géniteurs, qui doivent. Mais c'est la sœur qui décide. La mère n'y a pas de droit. C'est la sœur qui valide sa belle-sœur, en guillemets. Donc, vous voyez un peu comment la tradition, mais la loi ivoirienne, en termes juridiques, ne le voit pas. Mais une étude sociologique plus fine et approfondie fait ressortir toutes ces petites, on va dire, approches de la société. Contrairement à d'autres sociétés, c'est l'inverse aussi. Mm-hmm. Chez les Akans, c'est la femme, c'est la reine-mère. C'est la mère qui décide. L'enfant porte le nom de la mère, de l'oncle. Donc, c'est tellement... Et tous ces brassages, toute cette multiforme, multiculturalité font que, voilà, pour enchérir avec Dukaïm et Pierre Bourdieu qui ont parlé de la reproduction sociale, le tout de la société sur l'individu, avec son concept, le suicide de Dukaïm, Bourdieu avec la reproduction sociale, ces familles vont perpétuer cette culture. Vous naissez roi, vous mourrez reine, vous naissez forgeron. Vous mourrez forgeron. Mm-hmm. Votre place ne change pas. Mm-hmm. Chacun a son statut dans le village, dans la société. Entre Bourdieu et Dukaïm, voici la similitude qu'il y a entre les deux. C'est notre tradition africaine. C'est que tout est normé déjà, tout est déjà écrit. Vous naissez chef de... Vous naissez en fils de forgeron, vous mourrez fils de forgeron.
Ouais. Mais là, ça me permet de rebondir un peu sur un autre aspect de comment... En Afrique, les gens voient le métier de sociologue. Tout à l'heure, tu as parlé de mépris, de moquerie. Parce qu'en Afrique, il me semble que la connaissance, elle est transmise par initiation. D'accord ? Elle n'est pas enseignée de façon académique. Et donc, forcément, ce qui est de la culture, tout à l'heure, tu as évoqué chez les Yacouba, c'est la sœur qui valide. Eh bien, ça, c'est peut-être une des raisons. C'est-à-dire que toi, sociologue, tu nous diras. Qu'est-ce que tu en penses ?
Merci. Effectivement, chez nous, tout se fait par initiation, parce que nous partons tous d'une tradition orale en Afrique. Mais en même temps, je dirais que la difficulté chez nous, c'est que toutes ces traditions sont en perte de valeur. Aujourd'hui, ces préjugés prennent racine du fait aussi du taux d'alphabétisation dans notre culture. J'ai eu la chance de côtoyer des éminents professeurs qui ont fait les études en Europe, en Occident, mais qui sont minoritaires dans notre société. Aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, vous avez des enseignants sur TikTok, Facebook, pour ne pas faire de publicité sur les réseaux sociaux. Et cela permet à vulgariser cette discipline. On a tellement de phénomènes sociaux chez nous, à l'instar des gilets jaunes, des crises politiques... J'ai un ouvrage que j'ai commencé à parcourir, c'est Une démocratie sans les démocrates. Une démocratie sans les démocrates.
Tout un programme.
Donc, c'est un peu cela. Il faut des sociologues pour teinter déjà, palper de la population. Est-ce que l'électorat au suffrage universel retranscrit réellement l'assentiment des populations? Comme Pierre Rosanvallon l'a dit, géographe, historien et sociologue. Donc, il y a toute cette remise en cause. On calque des programmes de l'Union européenne dans un contexte qui ne sont pas forcément bien, qui n'ont pas été bien prospectés. Je prends encore l'exemple de la Tchéquie. On a un financement, j'ai fait cette enquête avec mon professeur, de l'Union européenne sur la Tchéquie des lagunes. Comment il faut le labelliser. Mais on a envoyé des machines, tout ce qu'il fallait, et on a pris des hôtesses, des dames qui ont fait... des grandes écoles de commerce, elles devaient manager ces moments, ces moments qui ont cette tradition millénaire de cultiver, de pratiquer la tchéquée. Aujourd'hui, on se rend compte que pourquoi la phase pilote n'a pas donné ses résultats escomptés, parce que il y avait un conflit de génération.
Absolument.
Simplement un conflit de génération. Cette dame, elle se retrouvait lésée par le fait que des mineurs, des entre guillemets, des gamines, des personnes qui n'ont pas cet ancrage historique, les commandaires, avec la comptabilité, le bilan, tout ça, c'était... Voilà, donc ça a un impact sur la production.
Alors c'est intéressant parce que... Voilà, et c'est intéressant parce qu'en même temps, c'était un bel exemple qui montre bien combien même nous sommes en rupture souvent, hein, entre cette modernité qu'on nous a imposée, qu'on a valorisée, et finalement les traditions, etc. On est dans une rupture. Alors moi, ce que je propose, Jérémy, je pense que tu seras d'accord, c'est qu'on revoit, on va le revoir parce que c'est pas possible, hein, l'émission s'arrête et on peut pas laisser là-dessus. On va... même avant la fin de sa thèse, parce que je sens que ça va, c'est quand même un sacré boulot. Donc on va remercier Bamba Chaïb d'être venu nous voir, de nous avoir éveillé sur cette discipline, la sociologie numérique. Pour moi, c'est quelque chose qui est important pour moi, et de nous montrer quand même combien le soi-disant inutile devient important. Et donc au revoir à tous, à la semaine prochaine. Au revoir Jérémy, au revoir Bamba, merci beaucoup.
Merci.
Et on vous abandonne avec une très belle musique destinée à redonner le moral après le Covid.
Merci.
De Magic System.
L'honneur est pour moi, merci.
Merci pour le soutien.